La crise politique nationale et ses répercussions sur les discussions quant à l'avenir institutionnel du territoire. Sébastien Lecornu fait de la Calédonie ainsi que du budget, les deux urgences nationales sur lesquelles doivent se concentrer les négociations. L'intervention de délégués loyalistes devant la 4e commission de l'ONU, Naya Watéou et Marie-Laure Kiwé, ont plaidé pour l'accord de Bougival, chemin de la stabilité et de la réconciliation. Les feux à usage non domestique interdits sur l'ensemble du territoire. Plusieurs communes sont placées en risque extrême feu de forêt par la sécurité civile. Les Olympiades des sciences de l'ingénieur. Des lycéens participaient à un grand concours de l'innovation ce matin à la station N. La place des cocotiers aux couleurs de la Polynésie française. Ce sera un jeudi du centre-ville spécial Tahiti et sur deux journées dès demain à Nouméa. Et le sport du football, les Calédoniens ont rendez-vous contre Gibraltar demain matin. Ce sera le premier match amical officiel en Europe dans l'optique de préparer les play-offs qualificatifs à la Coupe du Monde. Bonsoir et soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. La Nouvelle-Calédonie décrétée urgence nationale. Alors que la France est confrontée à une grave crise politique, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a proposé au socle commun de la droite et du centre de concentrer les négociations sur deux sujets, le budget et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Tous les partis du socle commun ont convenu de ces deux urgences avec une volonté partagée de trouver une issue rapide, a déclaré Sébastien Lecornu. On le sait, ici, l'urgence autour de la Nouvelle-Calédonie tient à la proposition de loi organique qui vise à reporter les élections provinciales et qui doit être adoptée très rapidement si on veut éviter que ces provinciales aient lieu avant fin novembre, Elisabeth Noir.
La proposition de loi organique qui reporte les élections à juin 2026 devait être examinée le 22 septembre au Sénat, mais en l'absence de gouvernement, son examen avait dû être repoussé. Et le temps presse parce que la loi doit être promulguée avant le 2 novembre, c'est-à-dire 4 semaines avant le scrutin qui, pour l'instant, est toujours prévu au plus tard, au 30 novembre. À défaut, les électeurs calédoniens seraient automatiquement convoqués pour renouveler les assemblées de province avec un corps électoral gelé. On relève aussi que malgré la crise politique nationale, et alors que Sébastien Lecornu est chargé de mener d'ultimes négociations pour définir d'ici mercredi soir, heure de Paris, une plateforme d'action et de stabilité, la situation de la Nouvelle-Calédonie n'est pas oubliée. Dans un communiqué, le député Nicolas Mesorf relève que dans un moment où tout vacille à Paris, notre île continue d'être considérée comme une priorité nationale. C'est un signal fort, écrit-il. Même dans la crise, la République n'oublie pas la Calédonie. Le député de la première circonscription qui nous a annoncé ce matin que la proposition de loi organique qui reporte les provinciales pourrait finalement être examinée dès la semaine prochaine par le Sénat. Il en a eu confirmation de la part du président du Sénat, Gérard Larcher.
J'ai eu un long échange là au téléphone avec Gérard Larcher, le président du Sénat, qui me dit qu'une note du secrétariat général de l'Élysée permettrait l'adoption en urgence de la loi qui décale les élections en Nouvelle-Calédonie. Et si cette note est confirmée par les experts juridiques du Sénat, il est probable que la loi organique décalant les élections soit proposée en conférence des présidents la semaine prochaine au Sénat à Paris.
L'adoption de cette loi organique permettrait donc le report des provinciales au mois de juin 2026, mais il faut encore rester très prudent. L'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas encore écartée, tout comme celle d'une éventuelle démission du président de la République, autant d'événements qui seraient susceptibles de remettre en cause tout le calendrier. La Calédonie a besoin de stabilité politique nationale et on est loin du compte pour l'instant. Sébastien Lecornu a fixé deux priorités, le budget et l'avenir de la Calédonie, et les deux sujets nous concernent très directement. La Calédonie a en effet aussi besoin que l'État se dote d'un budget pour l'aider à passer l'année 2026.
Au titre de l'urgence, la proposition de loi organique sur le report des provinciales pourrait être examinée dès la semaine prochaine par le Sénat. Mais les deux parlementaires indépendantistes calédoniens contestent cette volonté et leur position est relayée par le FLNKS.
Dans un long communiqué, le député Manuel Chibaou et le sénateur Robert Rouy contestent la volonté du gouvernement démissionnaire de faire adopter la proposition de loi organique de report des élections provinciales sous couvert d'urgence. Ils expriment leur vigilance et préoccupation en considérant que le caractère d'urgence attaché à la situation calédonienne ne saurait en aucun cas justifier un passage en force ni le contournement du dialogue politique. Pour Emmanuel Chibaou et Robert Rouy, le report du scrutin provincial constitue un acte politique majeur et une telle décision ne peut être prise que dans un cadre apaisé. légitimé par un consensus clair entre les partenaires politiques et avec un gouvernement pleinement investi disposant d'un mandat clair et d'une majorité effective. Les deux parlementaires indépendantistes rappellent aussi la récente décision du Conseil constitutionnel sur le gel du corps électoral pour affirmer que cette décision écarte tout risque de contentieux électoral et retire donc au gouvernement tout motif d'urgence pour imposer dans la précipitation un report de scrutin. Emmanuel Chibaud et Robert Rouy qui affirment enfin que dans ces conditions, rien ne s'oppose à la tenue des élections provinciales avant la fin de l'année 2025, conformément à la loi organique actuellement en vigueur. Une prise de position sans surprise, mais qui risque de compliquer encore un peu la situation, et elle est relayée, sans surprise là non plus, par le bureau politique du nouveau FLNKS, qui dans un communiqué plaide une fois encore pour le maintien des provinciales avant la fin du mois de novembre. Le nouveau FLNKS parle de nouvelles tentatives de passage en force de l'État, totalement inacceptables selon lui, compte tenu, écrit-il, des conséquences connues de cette même pratique déjà subie en mai 2024. Le nouveau FLNKS qui appelle les parlementaires français à ne pas faire de la Calédonie un enjeu de leur lutte politique interne et à refuser toute logique de passage en force.
Calédonie Ensemble estime de son côté que tout le mérite revient à Manuel Valls. Elle indique dans un communiqué que Valls a réussi l'impossible et que si la Nouvelle-Calédonie survit ainsi, en termes d'urgence, dans ce magma d'instabilité nationale, c'est grâce à l'investissement de notre ministre des Outre-mer. Un ministre démissionnaire qui s'exprime d'ailleurs au travers d'une tribune dans le Figaro, Elisabeth.
Manuel Valls qui plaide contre une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale qui, selon lui, aurait de lourdes conséquences pour les chantiers engagés dans les territoires ultramarins, la Nouvelle-Calédonie, la refondation de Mayotte ou la lutte contre le narcotrafic. Il écrit que provoquer une dissolution, ce serait d'abord hypothéquer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, érigée désormais en priorité par le Premier ministre et les présidents des assemblées. Pour Manuel Valls, la situation de la Calédonie reste un sujet de préoccupation majeure et il explique que pour traduire juridiquement l'accord de Bougival, il faut maintenant que le Parlement se saisisse d'une proposition de loi organique pour reporter les provinciales et d'un projet de loi constitutionnelle. La dissolution empêcherait d'avancer, voire conduirait à remettre en cause l'accord, alerte le ministre démissionnaire des Outre-mer. Elle serait aussi, dit-il, un frein à la reconstruction économique, sociale et financière, et elle mettrait en cause les projets de reprise des usines qui exploitent le nickel. Le risque que la Nouvelle-Calédonie replonge dans le chaos et la violence serait alors immense, écrit encore Manuel Valls.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, quelle est selon vous la solution pour sortir de la crise politique sans précédent que connaît la France? Si vous êtes partisan de la nomination d'un nouveau Premier ministre, vous tapez 1. Si vous êtes partisan d'une dissolution de l'Assemblée nationale, vous tapez 2. Si vous êtes partisan d'une démission du président de la République, vous tapez 3 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier est 93% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS, se disent déçus de la démission de Sébastien Lecornu. Ils sont 7% à dire que cette démission ne les déçoit pas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a bien sûr évoqué la situation nationale et les conséquences de la crise politique sur la Nouvelle-Calédonie. L'occasion pour le porte-parole du gouvernement, Christopher Gigès, de se féliciter que la Calédonie soit une priorité nationale.
On a eu une discussion en début de séance avec le haut-commissaire sur la situation au niveau national et les impacts pour la Nouvelle-Calédonie. Une vraie satisfaction, malgré la situation, que le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu ait pu annoncer que la Nouvelle-Calédonie faisait partie des deux grandes priorités de l'État sur le budget national et donc la Nouvelle-Calédonie. La situation est loin d'être réglée, mais au moins on sait qu'au niveau national, la situation de la Nouvelle-Calédonie est prise en considération à la fois au niveau institutionnel, mais également sur les aspects financiers. Donc on travaille efficacement en temps masqué avec la mission reconstruction pilotée par Claire Durieux pour assurer le fonctionnement normal de la Nouvelle-Calédonie.
Et lors de sa séance, le gouvernement a adopté un avant-projet de loi du pays qui vise à instaurer un régime de taxation simplifié pour les envois express de faible valeur. Pour Christopher Gigès, il s'agit d'une volonté de simplification à outrance des procédures administratives de la Nouvelle-Calédonie.
On a passé il y a 15 jours de ça une loi de simplification pour les entreprises calédoniennes. Là, c'est une loi de simplification douanière puisque chacun a eu une fois l'expérience quand il a été chercher son colis en express que le colis est encore en cours de dédouanement alors que c'est un colis à faible valeur. Donc, on a mis une procédure simplifiée pour que à la fois ça fasse un gain de temps pour l'administration calédonienne et qu'on puisse faire des économies en interne et que ça fasse des économies de temps pour les Calédoniens qui vont chercher leur colis dans les différentes centrales qui s'occupent des colis express.
Dans un tout autre domaine, le gouvernement a réorganisé la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques, la DSCGR. Des difficultés managériales et organisationnelles ont fait l'actualité ces derniers temps et ont fragilisé son fonctionnement interne. Dans sa nouvelle organisation, la DSCGR est toujours dirigée par un directeur qui coordonne et contrôle l'action des services et des structures placées sous son autorité. Il est également le chef de corps du corps territorial des sapeurs-pompiers, le directeur de la DSCGR qui est désormais assisté de deux adjoints qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement.
RRB, il est 17h55.
On a parlé une fois encore de la Nouvelle-Calédonie lors de la session annuelle de la 4e commission des Nations Unies à New York. Plusieurs pétitionnaires sont intervenus à la tribune et notamment Naya Wateu et Marie-Laure Ukewe qui se sont exprimés pour une Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Elisabeth Noir.
Naya Wateu était déjà intervenue à plusieurs reprises à la tribune des Nations Unies. C'était la deuxième fois pour Marie-Laure Ukewe. Mais toutes deux ont évoqué la situation difficile de la Nouvelle-Calédonie à la suite des violences insurrectionnelles de mai 2024. Et elles ont alerté l'ONU sur les ingérences étrangères dont le territoire est victime. Naya Wateu s'est présentée comme citoyenne engagée et élue de la province sud. Et elle a notamment rappelé le passé récent et la responsabilité des indépendantistes radicaux.
La Nouvelle-Calédonie a connu un chemin singulier de décolonisation. Au terme des trois référendums, les Calédoniens ont voté, affirmé et confirmé un statut de la Nouvelle-Calédonie dans la France. À certains de mes collègues indépendantistes qui aujourd'hui renient cet accord, je leur dis ici qu'il n'est pas sérieux de demander la tenue du troisième référendum pour ensuite le boycotter. Qu'il n'est pas responsable de signer un accord pour ensuite dire qu'il n'est pas valable car pas paraphé. Qu'il est encore moins entendable de signer un document qui dit qu'on n'a pas signé. La fuite et le déni ne sont pas des options acceptables en cette période tumultueuse.
Le destin de la Nouvelle-Calédonie appartient aux Calédoniennes et aux Calédoniens et à nul autre, a encore déclaré Naya Wateu. Et elle a défendu à la tribune l'accord de Bougival.
L'accord de Bougival illustre ce que l'ONU qualifie de quatrième voie de décolonisation. Une solution négociée, construite sur le consensus et tournée vers la création d'un statut sur mesure, en phase avec la réalité de notre territoire et la diversité de ses populations. Il porte l'ambition d'un État calédonien autonome, dans la France, affirmé dans ses relations internationales et fier de sa nationalité propre. En évoquant le transfert de compétences et un surcroît d'autonomie, il s'inscrit dans la continuité du processus entamé il y a plus de 20 ans.
Et malgré la lourde actualité internationale, l'ONU est préoccupée par la Nouvelle-Calédonie. Il y a en tout cas un réel intérêt pour le territoire qui fait figure de précurseur. C'est ce que nous a dit Naya Wateu que nous avons joint à New York.
Il y a un véritable intérêt de la part et de la commission C24 et de la 4e commission de comprendre aujourd'hui les enjeux qui persistent en Nouvelle-Calédonie parce que nous sommes aussi précurseurs sur ces travaux et c'est cette réalité de la 4e voie qui est mise en évidence aujourd'hui. Et encore une fois, que décolonisation ne veut pas systématiquement dire indépendance. La Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est un territoire presque pilote sur ces questions-là. Nos interlocuteurs sont très sensibles à cela et notre boulot, je considère aujourd'hui, c'est de leur amener l'information nécessaire.
Marie-Laure Ukewe est elle aussi intervenue à la tribune, elle a défendu elle aussi le processus de Bougival et elle a eu l'occasion de passer d'autres messages.
D'abord, c'est le message que tous les Calédoniens et en particulier les Kanaks ne sont pas tous indépendantistes. C'était important de le souligner encore une fois devant cette assemblée. Le deuxième message, c'est sur la partie concernant les collègues indépendantistes qui sont toujours sur des problématiques passéistes de colonisation, de peuple opprimé, de libération de ce peuple kanak. Il a été pour moi l'occasion de révéler un peu la réalité concrète de la vie en Nouvelle-Calédonie, en particulier depuis mai 2024, toutes les conséquences sociales, économiques et environnementales qui du coup mettent la Nouvelle-Calédonie dans un climat d'insécurité.
Une présence à l'ONU qui permet à l'opinion internationale d'être mieux informée sur la situation réelle de la Nouvelle-Calédonie et qui sert aussi à contrer les ingérences étrangères. À noter que cette fois-ci, à côté de la délégation du FLNKS, il y avait aussi des pétitionnaires de l'UNI qui, eux, ont défendu l'accord de Bougival.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à l'île des Pins, c'est le 101.
Un rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu demain matin à 7h30. Nous évoquerons le colloque prévu à partir de 17h30 ce jeudi au centre Tchibaou sur le thème « Faisons du sport un levier de transformation sociale ». Nos invités seront Antoine Comboiré, l'un des parrains de ce rendez-vous organisé par la Fondation Roger Cadour, ainsi que Laurent Caléja, co-président de la Fondation. Antoine Comboiré et Laurent Caléja dans les studios d'RRB, ce sera à suivre demain matin en direct à 7h30. Il est 18h, restez avec nous, on se retrouve après une courte pause publicitaire pour évoquer la suite de l'actualité et l'allègement des règles pour bénéficier du dispositif Sud Pro en province Sud. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Attention Païta, préparez vos chapeaux et vos fourchettes. Dimanche 12 octobre, c'est la 27e fête du bœuf. Rodéo, dégustation, jeux équestres et surtout le grand concours de barbecue avec 20 équipes en feu. Venez vivre une journée 100% western, 100% locale. C'est gratuit, c'est convivial, c'est à Païta. Dès 8h30 du matin, toutes les infos sur païta.nc.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France. Info soir, Michael Juneski.
Le dispositif Sud Pro évolue pour permettre à un plus grand nombre d'entreprises de bénéficier de l'aide financière. La province Sud a décidé de faire évoluer les règles d'attribution des crédits Sud. On fait le point avec vous, Charlotte Coulson.
Tous les inscrits sur la plateforme auront, pour la prochaine session qui débute le 17 octobre, un accès automatique à 50% de la somme qui leur reste à dépenser. La collectivité souhaite ainsi sortir de la logique du premier arrivé, premier servi. Pour rappel, chaque usager peut bénéficier d'un total de 250 000 francs d'aide à dépenser auprès d'une autre entreprise inscrite sur la plateforme. Avec cette nouvelle règle, un patenté ou une entreprise qui n'a pas encore pu utiliser ses crédits Sud pourra par exemple dès lors bénéficier de 125 000 francs. Depuis le lancement de la plateforme en mai 2025, 5 072 entreprises ont déjà dépensé une partie de leurs crédits Sud, 2 733 ne les ont pas encore utilisés et ce sont près d'1,6 milliard de francs qui ont déjà été injectés dans l'économie locale grâce au dispositif.
En bref, les élus du Congrès sont convoqués en séance publique, en session extraordinaire demain dès 9h. À l'ordre du jour, l'examen du projet de délibération habilitant le président du gouvernement, Alcide Ponga, à signer les conventions relatives au second prêt garanti par l'État contracté auprès de l'Agence française de développement à la suite de la crise de mai 2024. Les élus examineront également le projet de délibération approuvant la convention conclue entre l'État et la Nouvelle-Calédonie relative à l'attribution d'une subvention de l'État dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension d'entrepôts de stockage et distribution de viande de l'OSEF à Bouraille. Au chapitre social, une mobilisation annoncée de l'enseignement catholique ce jeudi devant le Congrès. L'ADEC dit avoir alerté le gouvernement sur l'insuffisance des taux que l'exécutif avait arrêté pour le calcul des contributions attendues de la part de chaque collectivité depuis 2024. L'enseignement catholique qui attend également une aide exceptionnelle pour pouvoir garantir la poursuite de ses activités, notamment pour les services de cantine et l'hébergement des internes. L'ADEC indique que sa trésorerie sera épuisée à partir du 30 novembre prochain, avec un risque de voir quelques 500 membres de son personnel au chômage technique. Demain, dans les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu, nous parlerons des entreprises qui prennent des initiatives malgré le contexte économique morose. Nous aurons deux invités, Mathieu Odaimi, qui a lancé la construction d'une usine de chips en Nouvelle-Calédonie, et Martin Fessard, le directeur général de Total Energy, qui évoquera les innovations mises en œuvre par sa société. Un Jeudi de l'économie à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
L'effet divers, 350 pieds de cannabis saisis hier à la tribu de Saint-Louis au Mont d'Or. Les gendarmes mobiles, aidés de la brigade territoriale, sont intervenus au cours de deux opérations, Charlotte Coulson.
Une première, ce mardi matin, les forces de l'ordre sont intervenues sur un terrain au cœur de la tribu où ils ont découvert 150 pieds ainsi que 4 armes à feu détenues illégalement. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue. Plus tard dans la journée, une seconde opération de saisie a été menée avec succès. Dans le même secteur, les gendarmes ont découvert une culture de 200 pieds de cannabis. Deux personnes ont cette fois été interpellées. Des enquêtes sont en cours pour détention de produits stupéfiants et détention d'armes. Les pieds ont quant à eux été arrachés et détruits. Ce lundi déjà, la gendarmerie communiquait sur une vaste opération de démantèlement à Wailou. 1800 pieds de cannabis de toute taille ont été découverts et saisis en seulement deux jours.
Le risque de feu de forêt est extrêmement important sur plusieurs communes du territoire. Ce matin, les services Météo France Nouvelle-Calédonie ont alerté sur le danger, notamment dans les secteurs de Canala, Kouaoua, Point-Dimier, Touo et Bélep. La cellule feu de forêt de la sécurité civile a donc réagi en interdisant tout usage de feu non domestique sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Le capitaine Alexandre Rossignol est officier de communication à la sécurité civile. Il appelle la population à la plus grande vigilance.
Toute la Calédonie est en risque jaune, orange et rouge. On est vraiment dans les risques extrêmes de par les conditions météo qui sont défavorables. Il était important justement de signaler, d'alerter la population sur les interdictions de feu. Alors ce qui est interdit, c'est l'usage du feu sur tout le territoire au niveau environnemental. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de l'éco-buage, pas de faire de barbecue, de par la carte de vigilance et les forts vents qu'on a actuels qui ont provoqué de la sécheresse. Donc on a un risque de feu qui est extrêmement important.
De son côté, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques du gouvernement se prépare pour intervenir rapidement en cas de feu.
On a toujours une pression feu de forêt qui est assez constante. L'année dernière, elle était un peu moindre. On a eu pas mal de pluie. Cette année, pour l'instant, elle est plutôt stable, mais on est extrêmement vigilant parce que on a quand même tous les indicateurs dans le rouge et qui sont propices à un départ de feu. Nous, on a des actions, c'est-à-dire qu'on a prépositionné des moyens en renfort dans les zones rouges. Les pompiers des communes sont mobilisés, plus les pompiers de la sécurité civile qui sont en renfort. Ces deux véhicules, pour l'instant, ont été prépositionnés sur Kone et Koumak. Plus l'hélicoptère bombardier donc, pour pouvoir justement est au plus près des départs de feu éventuels.
Depuis aujourd'hui, donc, les éco-buages, les brûlages de déchets, de même que les barbecues en pleine nature, sont strictement interdits. Dans le reste de l'actualité, un concours pour soutenir l'innovation chez les jeunes. La seconde édition des Olympiades de sciences de l'ingénieur s'est tenue ce matin à la station N, à Nouville. Une soixantaine de lycéens ont présenté leurs projets plus originaux les uns que les autres, Charlotte Coulson.
Originaux et parfois intrigants, comme cette lampe gravitationnelle présentée ce matin, de même qu'un drone récupérateur de déchets sous-marins, ou bien encore un oiseau bionique auquel des jeunes élèves de terminale de Jules Garnier ont ajouté une caméra. Ils sont cinq et ne regrettent pas d'avoir choisi la spécialité sciences de l'ingénieur cette année.
C'est un oiseau bionique qui relève du biomimétisme. C'est l'imitation technique des processus mis en œuvre par la nature. Et du coup, comme il ressemble à un vrai oiseau et qu'il vole comme un vrai oiseau, cela permettrait de faciliter l'accès à l'étude d'espèces animales dans leur milieu.
Oui, moi ça m'a beaucoup intéressé, surtout avec mes camarades. Comme on passe le bac aussi, du coup le fait de faire du projet, ça nous libère, ça nous fait du bien, quoi.
On rencontrait pas mal de difficultés. On a été confrontés à pas mal d'échecs. Donc il a fallu à chaque fois mettre en œuvre notre démarche d'ingénieur, c'est-à-dire de à chaque fois réfléchir à une solution.
Ça vous apprend à rebondir.
Exactement. Et même, ça nous apprend des choses. Voilà, on est là aussi pour apprendre.
Au total, 65 élèves venant de 3 lycées différents et répartis dans 14 équipes ont participé aux Olympiades de sciences de l'ingénieur ce matin. Ils ont eu 48 heures pour préparer leur présentation. Et puis l'exercice ultime, il a fallu vendre leur projet à de réels chefs d'entreprise ou professionnels de la tech. Parmi eux, le commandant Xavier Renoux, responsable du soutien de la base aérienne de Tantouta et correspondant innovation pour l'armée de l'air et de l'espace.
La jeunesse a un regard neuf et différent, intègre peut-être un peu plus de technologie et est beaucoup plus curieux. Et donc, ça peut être intéressant de voir le point de vue de ces jeunes et d'avoir leur avis sur les problématiques d'aujourd'hui. On voit par exemple un forêt qui est complètement habilité, dispose des capteurs pour suivre le comportement d'une mangrove, tout en répondant à une problématique de place et d'hébergement pour attendre l'ouverture de l'école. Donc il y a plein de petites problématiques où, à travers le prisme de l'innovation, on peut trouver des solutions. Et on veut en même temps, en faisant jury, leur apporter notre expertise et notre regard extérieur pour peut-être que l'un des projets puisse devenir une entreprise de demain en Nouvelle-Calédonie.
Pour les organisateurs, cette seconde édition des Olympiades des sciences de l'ingénieur est un succès. Ils espèrent renouveler l'expérience l'année prochaine.
Trois doctorantes calédoniennes ont reçu la nuit dernière pour nous, à Paris, le prix Jeune Talent 2025 de la Fondation L'Oréal UNESCO. Un prix destiné à récompenser les jeunes chercheuses et les rendre plus visibles dans un milieu où elles ne représentent que 30% des effectifs, Charlotte.
Et cette année, 699 candidates avaient été retenues par la Fondation. Et parmi les 34 lauréates, Noreen Wejime, une jeune chercheuse doctorante originaire de Nouméa, récompensée pour ses recherches sur les poissons coralliens du Pacifique.
L'objectif, c'était d'évaluer le compromis entre les avantages et les inconvénients de la consommation humaine de poissons des récifs coralliens à l'échelle du Pacifique. Faire un état des lieux, de pouvoir pêcher des poissons et savoir quels étaient le taux de contamination par les métaux, les pesticides et les PCB, et à contrario, la quantité de valeur nutritionnelle qu'elles pouvaient avoir, la quantité des minéraux, de vitamines et également d'acides gras polyinsaturés qui sont très bénéfiques pour la santé humaine. Une des perspectives que l'on aimerait mettre en avant, c'est un indicateur de consommabilité, donc savoir quelle espèce est préférable de manger en fonction de la quantité de contaminants et également de la valeur nutritionnelle. Notre étude montre que sur la soixantaine des espèces échantillonnées, le taux de contaminants est très faible. Par contre, la valeur nutritionnelle est très élevée, ce qui est très important, notamment pour le Pacifique, où la consommation des poissons des récifs coralliens représente entre 50 à 90% de l'apport en protéines animales. C'est plutôt une très bonne nouvelle.
Autre chercheuse récompensée, Naina Moura, une jeune femme originaire de La Foix, qui au sein de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et de l'IFREMER s'est intéressée au rôle des mangroves pour l'environnement. Avec ce constat, les Calédoniens aiment leurs mangroves, mais ne la connaissent pas bien et sous-estiment leur rôle.
En Nouvelle-Calédonie, la mangrove, elle est connue, mais en fait, les populations n'ont pas vraiment conscience du rôle fondamental qu'a la mangrove, à la fois dans leur vie et à la fois pour le climat. La mangrove, elle apporte quelque chose pour la protection des côtes face à l'érosion, face aux événements climatiques extrêmes. C'est une nurserie également pour de nombreuses espèces. Et c'est aussi un énorme puits de carbone. Et donc ça, c'est essentiel pour le changement climatique. Et en mettant en lumière ces mangroves, ça permet également de sensibiliser la population à leur importance et ensuite à leur protection. Les Calédoniens, ils aiment la mangrove, mais mes recherches, elles permettent de mettre en lumière le fait que la mangrove, en plus d'être là, d'être jolie, d'être un écosystème paisible, elle est aussi très utile pour l'environnement et c'est pour ça qu'il faut continuer à la préserver et l'aimer.
Et puis Léa Douché est la troisième chercheuse lauréate. Cette jeune Bretonne qui a intégré l'UNC est passionnée par la modélisation mathématique appliquée à la biologie. Son objectif est de créer des outils destinés aux gestionnaires de santé pour anticiper et prévenir les épidémies.
Je travaille sur l'étude des liens entre le climat et la santé. L'objectif derrière, c'est de pouvoir anticiper les épidémies et de pouvoir fournir aux gestionnaires en santé des outils pour anticiper et prévenir les épidémies. Je récolte des données climatiques qui sont issues des images satellites et des données de santé sur les territoires. Et du coup, je fais de l'analyse de données pour essayer de détecter le signal dans ces données et trouver des liens en fait entre l'événement climatique puis l'épidémie qui a eu lieu derrière. Et en fait, avec toute l'étude de ces données historiques, et quand j'arrive à retracer l'histoire entre le climat et l'épidémie, c'est des liens que je vais pouvoir utiliser dans le futur pour aller faire de la prédiction. C'est surtout un objectif d'informer, mais oui, je pense que ça peut aboutir à des choix des gestionnaires pour peut-être faire de la prévention, pour cibler aussi la communication dans certaines régions plus à risque que d'autres. Ça peut aider les communautés à se préparer, à faire face à des épidémies.
Des propos recueillis par Xavier Robert, notre correspondant à Paris. Et j'ajoute que les lauréates ont reçu chacune, parce qu'elles le valent bien, une dotation d'un peu plus d'1 700 000 francs pacifiques pour soutenir leurs travaux de recherche.
Il est 18h passé de 13 minutes, une dernière pause publicitaire avant de parler sport et animation, quand les footballeurs calédoniens se préparent à affronter Gibraltar et quand le cirque de Samoa se prépare à ravir le public de Nouméa tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vous êtes une entreprise, association ou collectivité ? Vous réduisez, réutilisez, recyclez les déchets ou vous souhaitez vous lancer dans cette démarche ? La Province Sud et l'ADEME peuvent financer votre projet. Pour cela, il suffit de répondre à l'appel à projet Économie circulaire avant le 14 novembre. Rendez-vous sur le site province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
18h14, la fin de votre journal avec Michael Juneski.
L'actualité culturelle à Nouméa, Tahiti, sera à l'honneur demain et vendredi sur la place des Cocotiers. Dans le cadre des Jeudis du Centre-Ville, l'événement se déroulera exceptionnellement sur deux jours. Écoutez Manuela Chongtai de l'association Towa Aiai.
Il y aura 145 exposants, artisans, des exposants qui viennent pour le culinaire, pour tous nos plats. Je sais que vous connaissez tous le chaumen, le matinto, la salade de poisson que vous aimez bien, les poés, les différents poés. Mais il y aura aussi d'autres plats qu'on n'a pas l'habitude de manger, mais qui font partie de notre culture, comme par exemple la chèvre au lait de coco, qui sera cuite et préparée par une association marquisienne. Parce que demain, il y a tous les 5 archipels qui seront représentés, donc les îles Marquises, les îles Australes, les îles Gambier, les îles de la Société, les îles des Tuamotu. Et vous savez tous que nous avons 116 îles chez nous. Les 116 îles seront représentées ici sur la place des Cocotiers. Le thème que nous avons choisi cette année, c'est Tahiti au grand cœur. Et on a voulu partager notre culture. Si on ne peut pas aller à Tahiti, venez au moins à la place des Cocotiers.
La communauté polynésienne vous attendra donc de 9h à 19h demain et vendredi sur la place des Cocotiers. Autre ambiance, le Grand Cirque de Samoa est de retour à Nouméa. Les premières représentations sont prévues à compter du 16 octobre. Son dernier passage en Calédonie, c'était en 2023. Écoutez Bruno Loaitupai, l'un des responsables du Grand Cirque de Samoa.
Tout le monde est tellement content de revenir pour faire un bon spectacle pour tous les gens aussi en Nouvelle-Calédonie et tous les enfants aussi, spécialement les enfants. On a des nouveaux spectacles, bien sûr des danses de Samoa traditionnelles, des artistes qui viennent d'Éthiopie, Vietnam, qui fait le roue de la mort. Aussi, on a les globes de la mort aussi, mais ça serait la fin du spectacle. On a les clowns, les magiciens, les artistes acrobatiques. Et aussi, on a un spécial tout nouveau. C'est un genre de hologramme. Il y a des gros animaux. Et venez avec les enfants, les familles, les amis. Dites tout le monde de venir, c'est un nouveau spectacle. Spécial pour tout le monde encore.
Le chapiteau du Grand Cirque de Samoa n'est pas passé inaperçu à l'entrée de la ville entre le quai ferré et l'ancien CHT. Première représentation prévue donc à compter du 16 octobre.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
On termine avec le sport et du football. La sélection calédonienne jouera demain contre l'équipe de Gibraltar, son premier match amical officiel en Europe. Une préparation en vue de la suite des phases de qualification au Mondial de 2026 qui se disputeront au mois de mars. Je vous propose d'entendre Jacob Génaud, le milieu de terrain qui évolue actuellement dans un club européen. Il espère que la Calédonie engrangera une solide expérience lors de cette confrontation.
Ça va être une découverte aussi pour nous. Sûrement un match plus costaud, certainement un match avec plus d'enjeux au vu aussi de ce qui nous attend en mars prochain. Donc ça va être un bon match pour nous. Je pense que si on est là, c'est qu'on a des ambitions quand même. Après, il faut les nourrir. Ce type de match, ça permet aussi de nourrir l'ambition, ça permet de voir grand aussi. Il ne faut pas qu'on se limite. Mais déjà, d'être là aujourd'hui, c'est déjà très bien pour nous. Après, voilà, demain, il faudra montrer aussi de quoi on est capable.
Demain, les Calédoniens qui affronteront donc la sélection de Gibraltar à partir de 4h, heure de Nouméa. 18h passées de 17 minutes, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre, bonsoir.
Bonsoir. Cette nuit, les nuages d'altitude s'évacueront progressivement, laissant place à un ciel plus dégagé sur la façade ouest, où la lune, d'abord voilée, finira par briller pleinement. Le temps restera sec malgré quelques nuages bas isolés. Sur le reste du territoire, le ciel demeurera plus chargé et de petites averses viendront balayer la côte est en deuxième partie de nuit, touchant également les Loyautés, mais sans intensité marquée. Le vent reviendra de secteur est sur la côte ouest en mollissant autour de 10 lumineux. Ailleurs, l'alizé se montrera plus vigoureux, souvent autour de 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds. Les températures nocturnes remonteront légèrement, aussi entre 19 et 23 degrés sur le littoral et 16 à 18 degrés dans l'intérieur des terres. Demain matin, le début de journée sera lumineux et sec sur l'ouest avant que les nuages venus du relief ne s'étendent progressivement dans le ciel au fil des heures. Sur le reste du territoire, le temps restera variable entre éclaircies et passages nuageux avec des averses plus marquées sur la côte est bloquées par les pentes du relief. Quelques gouttes éparses sont également attendues sur les Loyautés. Côté vent, le vent de sud-est s'imposera sur l'ouest avec 10 à 15 nœuds tandis qu'ailleurs l'alizé d'est-sud-est se maintiendra autour de 20 nœuds. Côté marée, elle sera haute ce soir à 20h42 pour 1,57 m pour redescendre à 3h pour 0,16 m et enfin remonter demain matin à 9h pour 1,62 m.
Merci beaucoup à Pierre pour la météo à la technique. 18h passées de 19 minutes, c'est la fin de ce journal.